L'approche thérapeutique métaconsciente que je propose est donc le produit de souffrance, de la souffrance observée au travers de mon ego, c'est certain, ce fameux ego dont nous allons reparler, mais aussi au travers du regard des autres, de tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de mon être, de mon entourage proche ou plus distant. Parlons-en de cet ego. Un matin, au lever du lit, j'ai pris le temps de l'observer. J'ai vu la tête dépitée qu'il me faisait, et là, fatigué, je lui ai donné congé. Ce matin-là, c'est là que métaconscience est née. Métaconscience est un néologisme qui se décompose en deux mots. Méta qui vient du grec, qui signifie ce qui va au-delà, ce qui englobe avec l'idée de mouvement et d'évolution. Conscience reprend l'idée de faculté de perception de l'information et de connaissance qui permet de se situer dans un espace-temps. Métaconscience est donc le produit de mes observations et ressentis extérieurs et intérieurs. Une sorte d'hypothèse qui présuppose qu'il existe un flux intelligent, une sorte de force intelligente, une énergie organisationnelle qui soit créatrice et création à la fois de ce que j'observe, mais qui a la faculté de réguler nos douleurs et de les analyser afin de les suspendre, de nous permettre de percevoir ces informations de façon plus relative. Métaconscience ou la métaconscience part du principe que chaque individu a une conscience propre qui est en interaction avec celle des autres. Un regard analytique individuel et collectif qui est en interaction avec ses semblables. Cette conscience à deux dimensions, bipolaire et unitaire à la fois, constitue une sorte de dimension collective et individuelle où chaque information, chaque émotion, quelle que soit son origine, circule en l'homme et dans la collectivité, jusqu'à devenir un élément, une force qui crée aussi bien l'image de l'homme que celle du monde qui l'entoure. L'homme, la perception humaine au centre du tout, celle qui construit une partie du monde, de son monde, l'homme qui crée sa vision du monde, une réalité, sa réalité. Cela paraît compliqué à première vue, mais il n'en est rien. Que nous propose-t-on aujourd'hui afin de diminuer notre souffrance? Nous avons le choix entre diverses thérapies, de quelques séances à une dizaine d'années. L'amplitude est phénoménale. On aborde la réponse à la souffrance avec une vitesse différente. C'est un fait, le résultat également. La psychanalyse n'a pas, d'après sa définition, pour priorité de guérir, mais de dénouer l'énigme du symptôme, plutôt que de chercher à le faire disparaître. On nous propose de trouver le pourquoi à notre souffrance, et ça pendant des années. Comment en sort-on, soulagé? Il nous reste quand même à trouver le comment, le moyen de ne plus reproduire, de ne pas retomber dans la souffrance. En tout cas, tout ça, c'est l'image que l'on a fabriquée à l'extérieur, dont on nous parle de la psychanalyse ou dont on nous en a parlé. A contrario, les thérapies brèves travaillent peu sur le passé. Elles s'attachent au temps présent, celui qui construit le futur. On cherche davantage à comprendre le comment sortir techniquement de cette souffrance en se coupant du passé et en négligeant peut-être ce douloureux vécu. Il faut faire vite et bien. D'où que l'on se place afin d'observer les solutions anti-souffrance, aucune thérapie de nos jours est capable de traiter la globalité de l'être, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur, en y associant toutes les dimensions de la personnalité du patient, et encore mieux, toutes les dimensions humaines, voire universelles. Il existe toujours une question brûlante qui demande pourquoi tant d'approches thérapeutiques différentes, parfois opposées, et qui suivent toutes cependant une même volonté, celle d'aider le patient à comprendre sa douleur et à l'aider à en sortir.